Oui, l'intitulé est un peu hâtif. Hein. C'était le dernier article que j'ai écrit pour l'École des Lettres, mais en même temps, ça permettra de soulever un certain nombre de problèmes. Moi, j'aimerais bien vous proposer une réflexion. C'est, mon Dieu, pas une conférence. Une réflexion qui relève du diagnostic. C'est-à-dire, on dit la proposition première, c'est la poésie est délaissée. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'elle est délaissée à l'école? Est-ce qu'elle est délaissée en général? Notre premier propos liminaire, enfin, qui a suivi votre intervention, justement, arrive d'emblée là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est de la pratique de lecture ordinaire de la poésie? Et comment peut-on penser le problème de l'école, du collège ou du lycée en dehors de cette première question-là? Et est-ce que la poésie est vraiment délaissée en France? Daniel laisse entendre que pas tant que ça, puisque ça circule dans les classes, et en même temps, autant on peut lire Hafez en Perse, enfin en Iran, dans les familles communes, disons, n'est-ce pas? Autant en France, on lira assez peu Maurice Sèvres, et la comparaison est intéressante. Parce que c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. Par exemple, Daniel a évoqué le monde arabe. Moi, j'ai vu des milliers de personnes se presser pour écouter Mahmoud Darwish, qui vient d'ailleurs à Lyon, je vous signale, au TNP le 12 octobre. Ne manquez pas l'occasion si vous êtes dans le coin. Il ne vient pas souvent en France. Et donc, on peut se poser la question, parce que la poésie de Mahmoud Darwish est une poésie savante. Une poésie complexe. Et pourtant, moi, j'ai vu assister à ces lectures des gens qui ne sont pas du domaine, du monde, disons, acculturé comme nous, on l'imagine, de ceux qui peuvent accéder à la poésie. Sans doute même, il y avait des illettrés, n'est-ce pas? J'ai vu ça au Maroc, par exemple, aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fait qu'ils aillent à la poésie, qu'ils ne la délaissent pas, donc, qui pose question. Pourquoi, chez nous, ce ne serait pas le cas? Mais, encore une fois, la question, la poésie est-elle délaissée d'abord dans l'ensemble de la communauté française? On peut répondre tout et son contraire. On peut répondre oui, elle est délaissée, la preuve, l'édition. La grande édition assume très peu la poésie. Et on sait qu'elle s'est réfugiée chez tout un tas de petits éditeurs qui font remarquablement leur travail, etc., etc. Bon, elle est délaissée, la preuve, dans les pages critiques des pages littéraires. Par exemple, en Angleterre, dans le Guardian ou dans le Times, il y a des pages entières sur la poésie. C'est très rarement le cas dans Le Monde ou dans Libé. Vous voyez, elle est délaissée dans les médias. Alors, n'en parlons pas, radio et télé. N'est-ce pas? Quand parle-t-on de poésie à la radio, même à France Inter? On pourrait accumuler des évidences et en même temps, on peut dire le contraire. Le Printemps des Poètes dont je m'occupe, d'une certaine façon, a été le révélateur d'une réalité autre, qui a surpris tout le monde, vraiment. C'est-à-dire que au mois de mars, avec tous les malentendus, et j'entends bien l'hétérogénéité qui marque la manifestation, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est, on peut dire, des centaines de milliers de personnes qui, de façon active, vont au poème, participent à des moments autour de la poésie, vont à des expositions, et des millions qui, passivement, rencontrent la poésie à ce moment-là. Et qu'il l'accepte, n'est-ce pas? Il n'y a pas de manifestation d'hostilité. Donc, est-ce qu'elle est si délaissée que ça? Je parlais de l'édition de poésie. Bien sûr, les grands éditeurs ne l'assument pas autant qu'il le faudrait. Encore que Gallimard, André Velter, vous donnerait des chiffres de vente de la collection de poche Poésie Gallimard. Et je ne parle pas seulement des livres prescrits en raison de leur inscription dans les programmes scolaires. Des chiffres de vente qui étonneraient beaucoup, qui dépassent de beaucoup des chiffres de vente de romans. Enfin, puis quand on regarde des ventes des Pléiades, etc., j'ai écrit un article là-dessus sur la réception de René Char dans leur série Télérama sur Char. Je donne des chiffres qui m'ont été communiqués par Christian Torel, le libraire d'Ombre Blanche, ou par Gallimard. Vous verrez que c'est assez étonnant. Par exemple, Lettera Amorosa, qui est quand même un texte très difficile, il a été vendu en quelques semaines à 30 000 exemplaires. Il y a bien un lectorat. Alors on peut dire, bon, c'est la pression de l'événement, etc. Quand même, il faut faire le geste et puis sortir les sous pour le payer. Alors, vous voyez, la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Maintenant, moi, je crois quand même, effectivement, qu'en France, parce que je voyage beaucoup, il y a un malaise avec la poésie. Et là, les preuves sont multiples et l'école en est une caisse de résonance. Je crois que simplement ce qui se passe à l'école, c'est qu'on a, de façon très immédiate, très vécue, ben, l'écho ou la manifestation de ces rapports tendus, conflictuels ou de mal-être avec le poème. On ne sait pas quoi en faire. Et le leitmotiv, c'est la peur. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait avec Georges et Michel des UFM, et ils disaient tout simplement une chose que vous savez tous, qu'il est très rare que des étudiants choisissent de faire leur mémoire professionnelle sur la poésie. Et pourquoi ? Georges employait le mot spontanément, autour du café, c'était pas prémédité, ils ont peur. C'est curieux quand même. Mais la poésie, pratiquement toujours, dès qu'on parle de poésie, s'il s'agit de passer un oral de bac sur un texte, eh ben, ça fait peur aussi. Souvent, le plus souvent. Et combien de fois dans ma carrière de formateur d'enseignant, mais d'enseignant avant, j'ai entendu des enseignants dire, des profs de lycée, de collège ou des instituts, dire leur malaise, leur mal-être, leur difficulté, et employer ce mot « j'ai peur ». Je ne sais pas comment faire. Donc c'est complètement contradictoire avec le statut officiel de la poésie, institutionnel, genre par excellence, objet d'admiration, etc., et qui constitue peut-être, sans doute, la base de notre patrimoine littéraire. Moi, quand je vais en Russie ou quand je vais au Canada, la poésie française, elle continue de marquer très fort les esprits. Très fort. Beaucoup plus qu'elle ne marque les esprits en France. Et il y a combien de poètes, je pense à un poète israélien, par exemple, Eliraz, etc., qui sont stupéfaits du décalage entre l'image qu'ils ont de la poésie française, et donc ce qu'ils supposent d'adhésion et d'empathie du peuple français avec leur poésie, et ce qu'ils voient. Et les pratiques, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que la question se pose, parce qu'on parlait des pays arabes, on peut dire, bon, c'est un autre rapport. Christophe Hanna disait à juste titre de quoi on parle. C'est vrai qu'il y a un autre rapport, une autre présentation du poème, etc. C'est peut-être pas la même chose que dans le monde occidental, anglo-saxon, ou européen. Mais c'est pas vrai. Parce que Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, poète irlandais, dont la poésie est au moins aussi complexe dans sa structure textuelle, pleine de références, d'archaïsme, et de pensée philosophique, on pourrait dire. Seamus Heaney est un auteur populaire en Irlande. On m'a dit, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que quand il faisait une lecture à Dublin ou dans une ville irlandaise, les gens faisaient la queue, parfois plusieurs heures avant, pour avoir accès à la salle. Comme pour chez nous un chanteur, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Alors, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Moi, je pense qu'on est devant une sorte de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que le problème de la relation du français moyen à la poésie, et ce problème, à mon avis, vient de l'école, mais s'il vient de l'école, ça vient pas, c'est parce que l'école, elle est tributaire d'une relation générale au poème dans la... Voilà, etc. Donc, qui est en cause ? Moi, j'essaie de voir et de comprendre objectivement quel type de rapport il y a moyen, il y a entre le français et la poésie, et où est le blocage ? Qu'est-ce qui fait peur ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas légitime à aller au poème ? Ou on ne se sent pas intéressé à aller au poème ? Quelle est la motivation, au bout du compte, n'est-ce pas ? Pourquoi n'y aurait-il pas motivation ? Quelque chose serait écran à une motivation possible, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas vraiment, franchement, avec plaisir, enthousiasme, etc. Que sous la contrainte scolaire. Parce que là, il n'y a pas le choix. Alors, la question, elle tient, à mon avis, à des malentendus profondément inscrits dans les représentations qu'on a du poème et de la lecture du poème. profondément inscrit dans notre inconscient collectif. Dans les représentations, je dis qu'on a du poème et de la lecture du poème. Ce sont deux cas différents. J'oserais dire que dans le propos liminaire de monsieur le directeur, tout respect dû à sa fonction et à sa pensée, il y a très typiquement, moi j'ai noté au vol, très typiquement, trois termes qui renvoient à ces malentendus, qui montrent à quel point ils sont inscrits, puisque la parole institutionnelle, et bien là on pourra regarder l'instruction officielle. Il a assigné au poème, à la pratique du poème dans la classe, trois entrées. Les mots disent tout, hein. Raisonnement, sentiment, voyage vers l'imagination. C'est marrant d'ailleurs, le voyage vers l'imagination. Et je dis voilà. De mon point de vue, ça ne fait que renforcer des convictions que j'ai, ça ne veut pas dire des certitudes, hein, des convictions, d'hypothèses que je fais. C'est-à-dire que, d'une part, qu'est-ce que c'est que le poème ? Ça serait, il y a là, dans sa formulation, voyage vers l'imagination, on sent bien une réduction, une édulcoration de ce que peut être l'enjeu de la lecture du poème, gravissime. Et c'est par d'ailleurs ce que répondent souvent des enfants, voire des enseignants, à quoi sert la poésie ou la littérature, tenez, à l'imaginaire. Et merde, non, excusez-moi, mon propos n'est pas académique, je suis plus prof et voilà. Donc je me sens libre de dire les choses. Non, moi je parle en tant que praticien, non, le mot ne me plaît pas. En tant que passionné de poésie, ça va, c'est mieux. Et là je dis non, il ne s'agit pas d'imaginaire et d'imagination. Il s'agit d'être au plein cœur du réel. Arrêtons avec ce préjugé ancestral qui voudrait que la poésie renvoie à un ailleurs lointain. Tous les poètes que je connais en France, quelles que soient leurs tendances, leurs intentions esthétiques, éthiques, etc., ils se coltinent avec le réel, chacun à leur manière. Et puis de quoi on parle quand on parle de réalité ? Des réalités concrètes et immédiates ou des bas-fonds du réel ? Ou des réalités secrètes, comme disait Marcel Béalut ? Etc, etc. Donc là, il y a déjà un problème de fond. C'est-à-dire, quel est l'enjeu du poème ? Pourquoi on lit le poème ? Et là-dessus, de la clarté, de la clarté, de la clarté. Les 9/10 des enseignants, je le jure, n'ont aucune idée ferme de ce qu'il y a à gagner en lisant le poème. Comment voulez-vous qu'après on définisse une pratique pédagogique ? Si déjà on n'a pas une clarté là-dessus, une conviction intégrée en soi. Et de quoi il s'agit alors ? Et là, ça devient compliqué. Parce que pourquoi y a-t-il poème ? Pourquoi lit-on du poème ? Et surtout, comme disait Christophe Hanna, de quoi on parle quand on parle de poème ? Qu'est-ce qui est poésie ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le haïku japonais de 3 vers est poème, et l'élégie de 300 vers est poème. Donc déjà, comme objet, on sait bien que c'est complètement inidentifiable. Et en outre, la modernité occidentale, elle n'a cessé depuis, je parle là de modernité au sens large, depuis un siècle et un peu plus, un siècle et demi, elle n'a cessé de remettre en cause le statut formel du poème, on le sait, etc. Et justement, ce qui permettait de l'identifier. Qu'est-ce qu'il en est ? On parlait de récits, par exemple. Il y a du poème narratif, il y en a toujours eu. Enfin, il y a du poème descriptif, et il y a du poème de l'épiphanie. Et puis il y a du poème depuis toujours, depuis les grands rhétoriqueurs, qui ne s'en prend qu'au langage. Bien avant que les années 60 se posent la question de l'idéologie dans le langage, qu'il fallait déstructurer, déconstruire, etc. Donc, vous voyez qu'on est devant un objet éminemment complexe et qui pose problème pour la pédagogie. Puisque le problème de la pédagogie, de toute pédagogie, me semble-t-il, et donc de toute didactique, toute réflexion là-dessus, c'est de quel objet on parle. Et le problème, c'est de cerner l'objet. Or, le propre même de la poésie est de nous mettre devant un objet mutant, instable, synchroniquement autant que diachroniquement, ou plutôt diachroniquement et asynchroniquement. Instable dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire française, puisqu'on parle de Hafez, on parle d'Omar Khayyam, mais on pourrait parler de tant d'autres. La poésie est le genre littéraire, si on l'entend comme genre littéraire, le plus ancien que je sache, et dont les formes donc sont les plus multiples, Parce qu'on ne peut pas penser poème en ne pensant qu'au patrimoine français. Et les variations formelles et d'enjeux, elles sont présentes depuis des siècles, peut-être des millénaires, si on regarde les choses dans l'espace et plus dans le temps seulement. Donc il n'y a pas de variation, je veux dire, seulement dans le temps. D'ailleurs, il n'y a pas de progrès. Il n'y aurait pas une évolution progressive de la poésie qui partirait d'une forme plus lourde et plus archaïque comme la vieille diligence et arriverait à une poésie souple et alerte, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous voyez, on est devant ce premier problème-là, mais il faudrait en dire tellement que je ne fais que soulever des questions. Et puis, ensuite... Ce que disait notre directeur, raisonnement et sentiment, qui relève de la relation au poème, du mode d'accès au poème, et qui indique là tout d'un coup deux voies. Et deux voies dont je ne vous étonnerai pas en disant qu'elles sont évidemment antagonistes. Et deux voies légitimes pourtant. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot raisonnement? Il y a le mot analyse, prise de distance, exégèse. Construction des significations, voilà. Et derrière nos sentiments, l'empathie immédiate, le coup de foudre, n'est-ce pas? Et là, on touche au cœur du problème. Ceci dit, Rilke dit, Rainer Maria Rilke dit dans un texte célèbre des cahiers de Maltolris Bridge, un passage célèbre sur la poésie, dit « Les poèmes ne sont pas des sentiments, on les a toujours assez tôt ». Oui, il n'y a pas besoin du poème pour avoir des sentiments. On est d'accord? Bon. Les poèmes ne sont pas des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Il a dit ça il y a quand même 100 et quelques années. Et nous, on ne tient jamais compte, il me semble, de la parole des poètes sur la poésie. C'est quand même les meilleurs experts. Or, c'est là qu'on se trouve devant cette aporie que j'explique dans le texte, que j'expose dans le texte. Il y a une vie avant l'explication de texte. On se trouve dans cette réalité, c'est que tous les poètes quasiment, quelle que soit leur nationalité, leur culture, leur obédience, etc., pratiquement tous, ils vous disent que l'approche du poème est une approche qui exclut l'approche authentique, je veux dire, ce qu'ils considèrent comme l'approche, la lecture qu'ils font eux-mêmes, donc qu'ils donnent inconsciemment un peu comme modèle. Mais il y a convergence, donc c'est intéressant pour nous. L'appropriation du poème, elle exclut la mise à distance. Elle exclut le regard froid, analytique, qui décompose. Tous disent, et je cite plein d'exemples de ces propos, depuis Montaigne jusqu'à Max Jacob, en passant par Michel Léris, enfin j'en cite plein. D'auteurs qui disent que la lecture du poème, elle récuse l'analyse. Montaigne dit, elle ne requiert pas notre jugement, elle nous ravage et consume, je crois, il dit quelque chose comme ça. Elle nous ravage. Yves Bonnefoy dit, le lecteur de poésie n'analyse pas. Il fait le serment aux lecteurs, son proche, de demeurer dans l'intense. On va dire, tiens, c'est le romantisme de Yves Bonnefoy. Deleuze dit la même chose. La lecture de la poésie et de la littérature, il parle de deux lectures. Il faut relire ça, les entretiens avec Claire Parnet. Il parle de deux modes de lecture et il parle de la lecture qui construit des significations, qui cherche l'essence par emboîtement, etc., et qui renvoie toujours au texte, dans une mise en abyme éternelle, enfin, il décrit grosso modo le processus de l'exégèse universitaire ou de l'explication texte qui en est son avatar. Et puis il y a l'autre lecture, qui est une lecture en intensité. Il emploie le même mot que Bonnefoy. Or, je crois que quel que soit le poème, peut-être qu'on touche à un dénominateur commun. Je vous dis, je crois. C'est pas une certitude. Je n'ai pas de dogme là-dessus. On ne sait pas. Mais je crois justement en raison de la multiplicité des témoignages de poètes d'âge et de culture et de pays différents, etc., et d'esthétiques différentes. Et ça va jusqu'à Octavio Paz. Enfin, je m'en suis fait toute une anthologie au fur et à mesure des années. Je crois que la lecture de la poésie, l'appropriation du poème, disons comme ça, celle qui vaut, c'est celle qui est acte de vie. celle qui est expérience, celle qui est lecture sans doute par empathie, qui mobilise l'individu, attention, pas seulement dans l'affect, ce qui serait une manière très dangereuse de dire les choses, mais qui le mobilise tout entier. C'est-à-dire qu'il le saisit, aussi bien dans la sensation physique, et ça c'est important évidemment, qu'il le saisit au-delà du concept, ou en deçà du concept, comme dirait Bonnefoy, mais qui est quand même dans une diction du monde en deçà du concept, mais qui dit le monde, qui touche au réel, et qui le saisit bien sûr aussi dans son histoire personnelle, dans sa psyché, dans etc., etc. Mais il y a comme une saisie, comme ça, j'emploie le mot saisie, parce que c'est du domaine de l'irruption, en quelque sorte. Et pas, si vous voulez, c'est pas du domaine du déploiement ou du dépliement. Il y a, qu'on écoute un poète performeur comme Julien Blaine, ou qu'on lise, je fais exprès de prendre des exemples pour montrer qu'à mon avis ça relève pas de choix esthétique particulier, etc., ou qu'on lise par exemple un poème de Maupois, je pense que l'acte d'appropriation, il est dans un état particulier de celui qui est devant le poème. Et en fait, cet état particulier, c'est que, contrairement à ce que je viens de dire, il n'est pas devant le poème. Il entre dans le poème. Et le poème entre en lui. Il y a ce phénomène d'osmose. C'est-à-dire que le poème le saisit autant qu'il saisit le poème. Et la compréhension, on revient à ce problème éternel de la compréhension. La compréhension, ici, il faut l'entendre, et je suis des choses très précisément, hein, écoute, entendez-moi bien, la compréhension, il faut l'entendre comme disait Marina Tsetaïeva. Comprendre, c'est étreindre, embrasser. Il n'y a pas d'autre compréhension du poème, disait-elle à des gens qui lui reprochaient l'obscurité de la poésie moderne russe en 1920. Hein, on lui disait, les Pasternak, les Mandelstam, vous-même, là, on comprend rien. Elle disait, vous savez pas ce que c'est comprendre un poème. Je vous jure, elle dit ça, elle le dit, elle l'écrit en français, deux points. Elle dit, le mot français, comprendre, dit tout. C'est dans l'art à la lumière de la conscience aux éditions Tant qu'il fait. Je ne sais pas si ça paraît, c'est encore disponible. Et moi j'ai trouvé ça passionnant parce que ça dit quelque chose d'essentiel. Marina Tsetaïeva, c'est pas une vision romantique et faiblarde de la poésie quand même. C'est quelqu'un qui au contraire une exigence ferme d'une appropriation forte de la poésie. Donc, elle nous dit quoi? Elle nous dit, il faut reprendre le mot français, et le mot comprendre, c'est étreindre, embrasser. Elle veut parler de ça, de cette saisie qui n'est pas dans une prise de recul, comme ça, qui décompose, détermine les parties, les soucis, les sens et microsens, et qui construit petit à petit. Non. La poésie, quelle qu'elle soit, nous saisit d'abord dans l'effet de langue qu'elle est, qu'on habite. Tout d'un coup, on habite la langue, et on habite autre chose que la langue, ce qui résonne au-delà. Comme quand la langue vibre, il y a cette vibration invisible, et dans cette vibration invisible, il y a des saisies intuitives, émotives aussi, et physiques, de cette part du réel que l'aplat ordinaire du fil tendu ne donne pas. Enfin, il y a quelque chose ici à comprendre pour nous tous. Et je crois que c'est un des problèmes du malentendu par rapport à la poésie en France. Et que l'école a modélisé, en croyant bien faire ce malentendu, elle l'a modélisé. Il faut qu'on comprenne bien qu'il n'y a d'accès authentique, vrai au poème, que dans un lâcher-tout. Un lâcher-tout qui récuse donc le despotisme du savoir savant, de la pensée discursive et analytique. Je sais très bien à quoi je m'expose en disant ça. Je sais à combien ça gêne, combien ça va de plein fouet contre toutes nos représentations parce qu'elles sont ancrées en nous par l'université française depuis des siècles. Et parce que, en plus, ça destitue, chez nous enseignants, notre pouvoir premier, qui est le pouvoir du savoir, de la prise de distance et du recul analytique. C'est ça notre pouvoir par rapport à l'enfant. C'est ça notre pouvoir par rapport aux non-instruits, par rapport aux non-enseignants. Or, quand je dis ça, je gêne. Et Dieu sait que je l'ai dit une fois à l'école normale sup à Paris, par exemple, à des gens qui sont les modèles mêmes de la pensée analytique savante, et où le pouvoir réside, enfin, je veux dire, chez qui le pouvoir réside là. Alors quand je leur dis ça, ils disent non, quoi, vous. Alors quoi veut dire quoi, l'enfant de 10 ans peut lire Éluard très bien, autant, aussi bien que nous, quelle démagogie. Et j'ai dit non, c'est pas démagogue, c'est la réalité. Il le lit aussi bien que vous là où il doit le lire. Là où il doit le lire. Et qui dit qu'il en sait moins que vous en ce qui concerne cette manière de s'approprier le poème? Pas savoir d'ailleurs, c'est pas le mot ici. Qui dit qu'il le vit moins bien que vous? Je parlais d'expérience. Et quelqu'un l'a dit avant moi. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. C'est toujours pareil quand je cherche dans mes papiers. Mais je vais trouver. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Alors, je vous lis ce texte. Dans l'article en question de l'école des lettres, je ne fais que le signaler, mais là, on a le temps. On a encore le temps. Oui. Je vous lis les 10-15 lignes. Celui qui cherche à comprendre, calculer, analyser. Vous voyez comment comment comprendre les appositions, hein? Comprendre, calculer, analyser. Il sait bien de quoi il parle, Nietzsche. Celui qui cherche à comprendre, calculer, analyser, au moment où, longuement ébranlé, il devrait fixer l'incompréhensible comme l'expression du sublime, celui-là peut bien être qualifié de sensé, mais seulement de la façon dont l'entend Schiller lorsqu'il parle du bon sens de l'homme sensé, qui ne voit pas certaines choses que voit l'enfant, qui n'entend pas certaines choses qu'entend l'enfant. Or, ces choses-là sont justement les plus importantes. S'il ne les comprend pas, c'est que son bon sens est plus puéril que celui de l'enfant et plus niais que la niaiserie même, malgré toutes les ridules de ruse qui sillonnent son visage parcheminé, malgré la virtuosité avec laquelle ses doigts savent démêler les chevaux le plus embrouillé. C'est quand même nous, les profs explicateurs d'explications, hein, ça. C'est dommage, l'explicateur d'explication. Résultat. Il a détruit et perdu son instinct. Il ne peut plus, lorsque son intelligence vacille, que sa route traverse des déserts, se fier à l'animal divin, entre guillemets animal divin, et lui laisser la bride sur le cou. L'individu devient ainsi timoré et mal assuré. Il ne se fait plus confiance. On dit tout sur l'approche de la poésie. Enfin, il dit tout, Nietzsche. L'individu devient ainsi timoré et mal assuré, il ne se fait plus confiance. On parle de l'homme ridé de ruse, n'est-ce pas? Il plonge en lui-même, dans son intériorité, ce qui signifie ici seulement, dans l'amas confus des connaissances acquises, qui ne se traduisent pas extérieurement, qui n'alimentent pas la vie. Quel procès violent, enfin, d'une certaine approche de la lecture. De la poésie. Et bien sûr, il y a un langage qu'on pourrait, il faudrait, bon, c'est Nietzsche, hein, l'animal divin, etc. Mais il y a quelque chose que je crois essentiel dans notre rapport à la poésie qui est dénoncé ici. C'est-à-dire cette peur de la chose insaisissable qu'on n'arriverait pas à tenir. Or, l'enseignant a cette peur. Quand il parle de la peur du poème, je reviens à ce que je disais au début, il a cette peur profondément, la peur de ne pas saisir, de ne pas tenir, et comment je vais ensuite me comporter avec des élèves si je leur propose un objet que je ne tiens pas, qui m'échappe des mains, sur lequel je n'ai pas de prise définitive. Et voilà un des grands problèmes, à mon sens, chez les profs de lycée particulièrement, que j'ai rencontré souvent et qui sont bien plus maladroits et mal à l'aise avec la poésie que les instits, qui eux sont plus facilement accessibles à cette approche de la poésie qui serait une approche un peu sauvage, un peu libertaire, il faut le dire. Attendez, hein, tout ce que je dis là, et ça ne sera pas pour vous rassurer, mais c'est parce que toute chose a sa conséquence ou plutôt sa nuance, enfin les deux, ne destitue pas, à mes yeux, une approche savante et analytique du poème. Mais cette approche savante et analytique du poème, dont l'école a fait, dans les faits et symboliquement, c'est encore plus fort, le tout de son enseignement, eh bien cette approche-là, elle doit venir après. Elle n'a aucun sens, elle s'effondre sur elle-même, si elle n'est pas enracinée dans cette autre chose qu'il nous faudra bien arriver à dire clairement et dont il faudra bien trouver les conditions pédagogiques, cette autre chose qui est comment je vis ce que dit Rilke, l'expérience du poème. Et comment est-ce possible en classe? Comment est-ce possible avec nos contraintes? Et comment est-ce possible en dehors d'un discours qui est dangereux et que je récuse tout à fait, un discours un peu mystico-lyrique qui dirait « donnez le poème et ça ira ». Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut entendre ma proposition, n'est-ce pas? Surtout, il ne faut pas en déduire de ce que je mets en cause dans le calcul savant et analytique du sens du poème, il ne faut pas en déduire une sorte d'approche bienheureuse, bienveillante et « donnez-leur des poèmes et le poème rayonnera parmi eux », approche christique en quelque sorte. Sûrement pas. Sûrement pas. Parce que ce qui se passe dans l'appropriation du poème tel que en parle aussi bien Montaigne que Rilke, que Deleuze, etc., c'est qu'on construit un comportement de lecteur très exigeant. C'est-à-dire ce qui est en jeu dans cette lecture dont je parle, première du poème, celle que vous pouvez bien vous appréhender comme j'en parle, parce que vous l'avez vécu à un moment ou un autre. Cette lecture qui, en intensité, Deleuze dit, c'est de l'ordre du branchement électrique. C'est-à-dire le coup de foudre. La foudre, c'est de l'électricité. C'est du type branchement électrique. Et je prends Deleuze en référence, parce que s'il y en a un qui n'est pas romantique de ce point de vue-là, c'est bien lui, n'est-ce pas? Et on pourrait voir ce que dit Barthes aussi, d'ailleurs. Bref, donc, si vous voulez, ce qu'il faudrait admettre et comprendre pour nous intimement, c'est qu'il y a une pratique du poème qui est une pratique à construire très tôt, dès la maternelle, qui est une pratique exigeante et qui suppose quoi? Qui suppose que celui qui est confronté au poème l'est de façon... l'est dans une conscience qu'il doit être hyperactif dans son rapport au poème. C'est donc le contraire d'un laisser-aller, d'une gentillesse molle. Il n'y a de capacité à saisir un poème, quel qu'il soit, et alors là on peut dire quel que soit l'objet dont on parle. Le haïku japonais, le grand poème de Kenneth White, tout. Voilà, ou la page de Prigent. Pareil pour moi. Il n'y a de capacité à entrer là-dedans que si j'ai, moi, ces compétences que je veux nommer là, avec prudence, qui sont des compétences essentielles que nous avons à peu près atrophiées. Vous allez comprendre très bien. L'attention. D'ailleurs, Hölderlin, non, c'est Paul Celan qui disait, mais en parlant d'Hölderlin, c'est pour ça que je... Paul Celan disait, les poèmes, ce sont des présents destinés aux attentifs. Or, moi, j'aime beaucoup cette réflexion autour de l'attention. Il n'y a d'accès au poème que dans une attention, c'est-à-dire dans une tension totale qui mobilise l'individu complètement, c'est-à-dire une générosité, une ouverture. Cette attention, elle est autant attention du regard, du corps, orienté, qui est immobilisé dans une apnée, qu'une attention de l'oreille, et qu'une attention de tout ce qui, en nous, est capable de recevoir, quoi? La langue? Ou la réalité? Parce que le poème est une réalité. C'est une réalité en acte. C'est une vie qui est vivante devant nous. Le poème est une vie et pas un objet qui serait un écho de la vie. Là aussi, il y a un grand malentendu, je crois. Et donc, il faut être dans cette ouverture exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, et c'est ça le problème, c'est de faire compétence de cette exception. Cette attitude exceptionnelle d'ouverture d'attention. Il faut rééduquer chez nous tous cette capacité à une écoute fine. Mais c'est une écoute ouverte. C'est pas une écoute, et c'est là qu'il est très important de le dire. C'est pas une écoute seulement de la langue, une sorte d'écoute philologique, si vous voulez. C'est pas seulement une écoute qui du spectaculaire. La chose qui se montre comme ça, par exemple, ce que le danger du comédien ou de la performance, d'une certaine façon, sa limite, c'est que on s'arrêterait à l'effet d'apparition, n'est-ce pas? Et ça voudrait dire que lire le poème, c'est se rendre poreux, c'est se mettre en capacité d'intensité, d'échange, d'osmose, de réception. Mais comme j'ai parlé d'action, ça veut dire aussi que le receveur du poème, il est aussi acteur du poème. Octavio Paz l'a dit et tellement d'autres avant. Ponge a dit ça. Il a dit, le poème c'est une salle noire. Le lecteur arrive, il allume le commutateur. C'est-à-dire que c'est le lecteur, auditeur, puisque je veux pas mettre de côté cette appropriation par l'oreille, n'est-ce pas? Le lecteur-auditeur, alors, c'est lui qui fait la lumière dans un texte qui n'a pas de lumière, qui ne vaut pas avant lui, qui ne vaut rien avant le lecteur. Il faut bien, enfin, Umberto Eco l'a dit quand même. C'est-à-dire que le poème ne vaut pas en lui-même. Mais si je dis ça, je mets en cause beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça paraît simple et banal de dire le poème ne vaut pas en lui-même, mais je mets en cause beaucoup de choses. Le poème ne vaut que par la lecture qu'on en fait, et il n'est poème que parce que je le dis poème. Et pourquoi je le dis poème? Parce que j'ai une compréhension intime de ce que c'est que le poème. Là, je réponds à cette question, qu'est-ce que c'est que le poème? Eh bien, il y a cette chose un peu bizarre. Cette chose un peu bizarre, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le poème et qu'on le sait quand même. On sait quand c'est pas le poème, en tout cas. Et moi, je dirais que c'est quand il y a cette intensité qui vibre dans la langue. Alors là, on est dans le poème. On le sait bien, du reste, tous. Parce que si on lit Julien Gracq, on dit c'est du poème. Et de quoi il s'agit? D'une intensité de la langue. Il faut que j'arrête. Oui. Alors, oui. Et je vais vous dire encore, parce que, bon, tant pis, hein, je fais que tracer, je vais pas aussi loin que j'aimerais aller. Mais enfin, dans tout ça, si vous voulez, ce qu'il faudrait entendre, c'est ce que je voudrais dire, pour ma part, c'est que si on veut changer quelque chose dans l'enseignement, il faut que l'enseignant lui-même, donc le futur enseignant, eh bien, change son rapport devant le poème. On n'est pas dans un rapport de dominant à dominé. Le poème ne doit pas être la chose à dominer. Vous voyez, le combat du torero. Et il s'agit de dire que nous devons tous, à un moment, construire, ça se construit, ça s'apprend, cette capacité à saisir cet objet impossible qu'est le poème. Et comment? En mettant en œuvre en soi 1000 stratégies possibles. Je veux dire une infinité de stratégies. J'emploie exprès le terme de didactique, stratégie. Car il y a bien des stratégies pour aller au poème. Mais nous avons enfermé, nous, l'accès au poème dans deux stratégies. L'imprégnation, comme on dit, par la récitation. C'est avec mon avis, ce côté romantique, mystique, qui est dès le début, donnez-leur le poème, ça va rayonner en eux, comme l'hostie, quoi. Et puis, bref, et l'autre, l'explication de texte, etc. C'est-à-dire cette idée que on accède au poème par le savoir savant et par la description de ses jusqu'au détail, puisqu'on part du global et qu'on arrive au détail. Donc, il me semble qu'il faut dire, il n'y a pas deux stratégies sacro-saintes, fut-elle légitimée par la tradition, etc. Elles ne sont pas légitimées, elles sont délégitimées par la pratique et la non-pratique. C'est-à-dire, les gens ne lisent pas de poésie. Ça fait quand même un certain nombre de décennies que tous les enfants de France font de la récitation ou de l'explication de texte. Et qu'ils ne lisent pas plus de poèmes. Plutôt moins. Donc, bon, l'argument, il vaut ce qu'il vaut, mais moi, mon avis, il est quand même incontestable. On peut bien s'évaluer aussi, nous, et évaluer globalement nos pratiques. Eh bien, je pense, moi, en tout cas, on pourra en parler pour la littérature, voir ce que dit Todorov, etc. Mais, en général, mais je pense que la poésie a été victime du fait qu'on a modéliser deux stratégies d'accès au poème. Alors que tout lecteur habituel de la poésie, ordinaire, savant ou pas, agrégé ou pas, il sait qu'il n'y a pas de stratégie a priori. Voilà la difficulté de lecture du poème. C'est-à-dire que je ne lis pas François Villon, et je dois lire François Villon, enfin moi, pour ma part, je me dois de le lire, j'ai un plaisir à le lire et j'ai envie de le lire, mais je ne lis pas François Villon comme je peux lire Véronique Pitolo ou Maupois dont je parlais tout à l'heure. Chaque poème, chaque poète, Edmond Jabès, Guilvic et Saint-Jean de Perse, vous imaginez le même stratégie de lecture pour lire ça? C'est pas possible. Donc le problème de... Alors pour le roman du 19e, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Les romans emblématiques. Après, quand le roman mute, ça devient plus compliqué. Mais on arrive à ajuster les stratégies. Mais pour le poème, non. Parce qu'étant donné l'extraordinaire mutabilité du poème. Et alors, ce que je veux dire très rapidement, c'est dommage de le dire trop vite parce que ça avait caricaturé, mais enfin, il me semble qu'à l'école, notre projet, notre but, ça devrait être de multiplier les objets poétiques de façon à ce que la poésie reste un problème. J'ai écrit dans un article, je crois que c'était pour... D'ailleurs, c'était peut-être le livre chez Gallimard, l'INRP, là, sur la littérature. Je sais plus, un truc qui s'appelait le problème avec la poésie. Et je disais, et j'y crois vraiment, que effectivement la poésie pose problème à l'école, dans l'enseignement, et que c'est tant mieux. Et que notre problème, c'est notre volonté, notre problème d'enseignant, c'est de vouloir évacuer le problème. Il faut pas l'évacuer, il faut faire vivre le problème de la poésie. C'est-à-dire que la question intéressante, c'est que l'enfant, quand il sort de la fac même, en tout cas de CM2 c'est sûr, mais de la fac même, il sache toujours pas ce que c'est que le poème. Rien de pire que de savoir ce que c'est que le poème. Parce que ça ferme la lecture au nouveau poème qui arrive, à l'autre poème. Il faudrait jamais savoir ce que c'est qu'un poème. Avoir toujours envie de se poser la question, d'être en quête du poème. C'est ça, à mon avis, cette capacité à l'inconnu, ce désir d'inconnu, ce désir du dérangement, de la déconcertation, qui doit fonder notre attitude de lecteur de la poésie. Alors, franchement, inventons les conditions pédagogiques qui feront que l'enfant, l'adolescent, expérimente tous les modes, toutes les stratégies que nous connaissons déjà, et puis qu'il en invente d'autres avec nous, et puis d'autres tout seul. Parce que moi, j'ai des stratégies de lecture du poème tout seul, c'est vrai de toute littérature, que je ne partage avec personne d'autre, et que je veux partager avec personne d'autre, et qui sont efficaces, je crois. Je crois qu'elles sont efficaces, puisqu'elles me permettent de lire tellement de poésie et d'être si heureux, et de vivre à partir de là même. Donc, à mon avis, ça doit être efficace. Et pourtant, elles ne sont pas légitimes. Hein. Moi, quand je prends un bouquin au hasard, et que je prends vraiment au hasard, et que je lis trois vers, et que je me les lis comme ça, et puis que je ferme, sans me poser d'autres questions. C'est une stratégie absolument illégitime, puis injustifiable. Mais je lis beaucoup comme ça. Mais je lis de la poésie tous les jours. Et je sais que je lis différemment pour chaque poète. Voilà. Je parlais de Julien Blaine, regardez Christophe Fiat avec sa guitare, etc. Et à côté de ça, si je lis, et je lis avec beaucoup de plaisir, je sais pas moi, Armand Mongeau, dont plus personne ne parle peut-être, parlons de poètes vivants, Jacques Roubaud, ou Verhaeghen, ou comment voulez-vous que je lise de la même façon Verhaeghen et André Velter, qui sont les meilleurs amis du monde par ailleurs. Et qui sont portés par un même sens de la poésie, un même désir du poème. C'est très curieux, alors que leurs esthétiques sont si différentes. Il y en a un qui vient de TXT, etc., et puis l'autre qui vient plutôt d'une autre lignée, charienne, disons. Et vous voyez comment c'est possible, quand même. Bon, et donc, mais par contre, comme lecteur, je peux pas... Bon, alors, j'ai fini.